je sens venir l'hiver. Les oiseaux se rassemblent. J'ai les pieds à découvert. Les sentiers sont mouillés. Je dois vite me chausser. J'ai la tête en hiver.
Nous sommes le 4 janvier 2023. Bonne année tout le monde. Vous écoutez Audio Smut sur les ondes de CKUT au 90.3 FM. Présentement 6h du soir. Et aujourd'hui, je dois dire que j'ai un show bien spécial pour vous. Ça fait plusieurs années que c'est in the making et enfin, ça se réalise. On va commencer tout ça avec une petite histoire, un petit conte de fées. Flashback en 2019. À cette époque, je travaille à feu la coop Le Cajibi, rest in peace. Et on est quelque part au printemps, je fais un shift de formation. Donc c'est un de mes premiers shifts là-bas. Et je travaille, je me fais former par mon collègue Julien. Shout out à Julien Audet. Puis là, on est en train de faire le close, on aimerait mettre de la musique pour passer la mop. Puis je lui dis, Julien, là, je sais pas quoi mettre, là, qu'est-ce que je mets? Il dit, va sur YouTube, puis mets Priscilla face 1. Là, je dis, OK, je vais sur YouTube, je mets Priscilla face 1. À l'époque, il y a peut-être 700 vues sur la vidéo. Et on écoute, et je capote. Je trouve ça excellent. C'est du folk, c'est québécois, c'est 70s, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie, j'ai jamais vu ça de ma vie nulle part. Et je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ça. Là, je demande à Julien, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Comment t'as trouvé ça? Là, il me dit, à un moment donné, j'étais dans une vente de garage ou une vente de sous-sol d'église, je sais plus exactement. Et je trouve un vinyle. Et la pochette m'appelle. La pochette, c'est Priscilla. Et l'album est éponyme, donc il y a un Priscilla au-dessus de sa tête. Et elle tient un canard en bois contre son ventre. Et elle est très belle, et elle a les cheveux au vent, et elle regarde la caméra. Puis pour une raison ou une autre, il s'est senti vraiment appelé par l'album. Il l'a ramené chez lui, il l'a écouté sur sa table tournante, puis il n'en revenait pas. Il trouvait ça excellent. Et un peu comme moi, justement, il trouve ça nulle part. C'est pas numérisé nulle part. Ça, c'était des années auparavant. Puis il est un peu frustré. Il est comme, mais qui est-ce? D'où est-ce qu'elle sort? Où est-elle? Puis pourquoi il n'y a rien de numérisé nulle part? Puis éventuellement, justement, je pense en 2019, il se rend compte que quelqu'un a pris le temps de l'uploader sur YouTube. Mambo007. Donc, shout-out à Mambo007 de nous avoir permis d'avoir accès plus largement à la musique de Priscilla. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça devient une espèce de mystère qu'il faut que je résoudre. J'aime ça un peu investiguer. Surtout, je commence à prêcher la bonne nouvelle. Donc, je montre l'album à tous mes amis. Et un par un, tout le monde a la même réaction finalement. Comme, mais c'est excellent. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? D'où sa sœur? Qui est-elle? Où est-elle? Tout le monde a un peu la même réaction. Et il y a même un espèce de sous-groupe de gens qui deviennent un peu comme obsédés. Donc, on a un groupe chat, on discute de documentaires, de faire un album de cover, faire un show hommage. On a vraiment des espèces d'idées de grandeur qui aboutissent pas, mais tu sais, on réfléchit à tout ça, tu sais. Éventuellement, un de mes amis fait des recherches, arrive à trouver son nom complet, Priscilla Lapointe, certaines informations sur où elle a travaillé, et même un article qui parle de sa victoire en fait au premier festival de la chanson de R&B en 1969 avec sa chanson Petite Fille.
Petite fée, petite demoiselle, tout souriant au matin qui se lève, tu t'étires comme un chat. Tiens, voilà ton papa. Tu danses bien sur ma douce musique, et j'ai les souplets comme la marguerite.
Même un article qui donne sa date, heure et lieu de naissance qui nous permet de faire sa charte astrologique et de découvrir qu'elle est cancer comme moi et comme Julien d'ailleurs. Donc à chaque étape finalement le mystère s'épaissit et ça devient de plus en plus pressant de comme il faut qu'on arrive au bout de ça, il faut qu'on découvre en fait qu'on rencontre la légende, tu sais. À ce point-ci, justement, après comme 2 ans, là, c'était devenu un peu une espèce de légende, là, de inside légende dans mon groupe d'amis. Et à un moment donné, je me dis, bon, là, entre-temps, j'avais commencé à être co-host de Adios Mutt. Je me dis, bon, mais ben, ça pourrait commencer par ça. On pourrait commencer par une invitation à faire une entrevue à la radio. ce serait déjà vraiment génial de pouvoir faire ça. Alors, je prends mon courage à deux mains, je Google ce que je peux googler et je trouve certaines adresses e-mail qui sont d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, reliées à Priscilla. Et j'écris un long e-mail où je décris essentiellement cette histoire. Et je l'invite, je lui dis, mais je t'invite, si ça te tente, à faire un show avec nous à Audio Smut. Et quelques mois passent et je me dis, ah, ça n'intéresse pas, elle veut rien savoir de moi. Finalement, j'en reçois un email où elle me dit que c'était dans son spam, mais que ça lui ferait plaisir qu'on se rencontre et qu'on en discute. Alors, à l'automne 2021, on s'est rencontrés et pour moi, c'était vraiment un grand moment. J'étais très stressé, mais très content aussi. Et je sentais justement qu'on avait, après tant d'années, après tant d'efforts, qu'on avait réussi à percer le mystère. Puis j'ai pas été déçu aussi. Parce que des fois, quand on est excité par quelqu'un, par son travail, puis qu'on le rencontre, on est comme, ah, finalement, cette personne-là, pas gentille. Ou quelque chose comme ça. Mais non, vraiment, Priscilla est vraiment super. Et c'était vraiment une belle rencontre. Et donc, c'est ça, depuis plus d'un an, finalement, on est en communication pour préparer ce show que vous allez écouter aujourd'hui. J'ai le plaisir d'annoncer que on a la chance d'avoir Priscilla en studio aujourd'hui à Sécurité. Comment ça va, Priscilla?
Ben écoute, ça va bien, Mycélium. Très, très heureuse d'être ici. Alors, tu viens de raconter une belle histoire, fait que j'en fais partie, donc je suis très, très heureuse d'être ici avec toi puis avec tout le monde.
Cool. J'aimerais ça de commencer par te demander justement peut-être un peu plus d'informations sur l'album que lancé toute cette quête. Comment ça a été pour toi enregistrer, lancer? Je sais que tu m'as raconté que le lancement s'est passé en plein hiver sur le top de la montagne et que vous avez ensuite patiné sur le lac au castor.
Oui, c'est ça. Alors, ben oui, quand on a fait l'album, il y a eu le lancement et ça a eu lieu justement avec François Guy. Je ne sais pas si vous connaissez François Guy. Donc, c'était un lancement double. Et puis, on a patiné sur le lac des Castors et puis il y avait plein de monde. Fait que c'était très, très, très agréable de finaliser finalement la sortie de l'album de cette façon. Alors voilà, donc, et puis, et avant, ben là, si on peut retourner un petit peu plus en arrière, ben j'ai commencé à faire de la musique, j'avais environ 18, 19, 16, 18, et puis je faisais partie d'un duo, ça s'appelait Paul et Priscilla,
Oh.
et on jouait de la guitare, on chantait, puis dans ce temps-là, ben c'était plus des chansons, on faisait des traductions de Bob Dylan, alors c'était folk, comme t'as dit tout à l'heure. Alors il y avait cette couleur-là que j'aimais beaucoup, en plus les textes de Bob Dylan, très humains et avant-gardistes aussi. Alors c'est ça, j'ai commencé comme ça en fait à faire de la musique à Chicoutimi avec mon chum Paul et puis c'était vraiment agréable. On avait aussi à un moment donné des musiciens. Alors, on a fait une couple d'années comme ça. Et ça a été moi le début, là, disons, de ma carrière là, sur place, là, naturellement, au Saguenay. C'est comme ça que j'ai commencé.
Est-ce que c'est ça, t'as grandi au Saguenay, finalement?
Oui, pas longtemps, mais j'ai grandi
Ah,
au Saguenay.
mais c'est fou, je savais pas que t'avais fait des covers de Bob Dylan. Ça, c'est
Ben.
mon main guy, là. J'en ai vraiment beaucoup écouté dans ma vie, là.
Ah oui, ben c'est parce que j'écrivais pas nécessairement au début, donc faut que tu chantes, tu prends une guitare, t'apprends des accords et tout. Là, il y avait les amis de qui étaient plus vieux de mes sœurs, parce qu'en fait mes sœurs avaient eu des guitares. J'avais deux jumelles, c'est mes sœurs, et puis ils n'ont jamais joué. Alors c'est moi qui ai pris la guitare, puis je me suis mis à jouer, puis des amis d'eux autres, ben ils me montraient des accords, puis ah ouais, on va jouer le pénitencier, d'accord. On va apprendre le pénitencier, la chanson. Alors j'ai commencé comme ça, c'est tout. Après ça, petit à petit, j'ai commencé à composer.
Fait que c'est au travers des amitiés finalement que t'es tombé dans la musique.
Ouais, oui, oui,
Ouais.
oui.
T'avais des amis qui étaient intéressés par la musique, puis t'es
Oui,
comme
mais je
rentré là.
faisais déjà de la musique parce que j'avais appris le piano, un petit peu de piano quand j'étais plus jeune. Et après ça, j'ai fait du violon. Et après ça, j'ai commencé la guitare classique. Mais avant le classique, là, je veux dire, je bisounais, là, tu sais, les petits accords, là, pour jouer des petites tunes faciles, là, tu sais. Fait que j'ai commencé comme ça.
T'es pas mal multi-instrumentiste quand même, là, t'as touché à pas mal de.
Multi-instrumentiste, ben, je joue un petit peu de percussion, j'aime bien ça. Je me suis acheté une basse il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une couple de tracks avec, j'aime beaucoup la basse. Mais aussi, j'ai un studio, donc je fais des arrangements. En fait, j'aime beaucoup les arrangements, faire des arrangements. Alors, l'ordinateur, puis les pitons, puis les sons, puis voilà. Donc, dans ce sens-là, j'ai des idées musicales pour les instruments aussi. Pas juste pour une mélodie, tu sais.
Et que tu dirais que la composition, c'est arrivé à peu près vers la vingtaine, genre.
Ben, avant ça, parce que tu vois, tu as parlé du festival de Granby, OK? Donc, je suis allée comme auteure-compositrice et bon, j'ai gagné. En fait, c'était la première C'était la première édition du festival et j'ai gagné auteur-compositeur. Mm. Alors, j'avais mes tounes, là, déjà, mes petites tounes. Il y avait Petite Fée que tu as nommée tout à l'heure. Et puis, ben, j'étais très, très naïve à l'époque. Je suis encore un petit peu, mais je veux dire. Et il y avait aussi le côté B du 45 tours, parce que j'avais fait un 45 tours. C'était La vie sans amour.
Mm.
Alors, à 18 ans, c'est pas drôle, hein?
Non.
Donc, on avait fait ça en studio, puis c'était des gros orchestres. C'était vraiment la grosse production, là, tu sais. Fait que c'était une belle expérience.
Ouais.
C'était sur étiquette Apex.
Puis, entre ton album, il est sorti en 1974. Entre le Festival de Granby puis ton album éponyme... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a mené à créer cet album-là, finalement?
Bien, en fait, moi, quand j'ai gagné à Granby, bien là, à ce moment-là, je suis déménagée à Montréal un an après parce que je voulais faire de la musique. Donc, je suis allée au cégep. J'étais en art plastique.
Où ça?
Au cégep à Montréal, au Vieux-Montréal.
Okay.
Et j'étais en art plastique. Et là, il y avait eu une grosse grève des étudiants. Donc, j'en ai profité à cause de la grève pour arrêter d'aller à l'école. Fait qu'il faut pas le dire trop fort, mais alors, continuer d'aller à l'école. Mais moi, j'ai comme quitté parce que je voulais faire de la musique. Donc, j'allais dans les boîtes à chansons, dans le Vieux-Montréal. Et puis, là, à un moment donné, ben, tu sais, on était plus qu'un chanteur, là, tu sais. Mais on faisait nos petites ritournelles, on chantait et tout. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, je composais. Puis, il y a des gens qui sont venus m'écouter. Puis après ça, hop, tiens, à un moment donné, j'ai rencontré André Perry, que ben du monde connaissent, qui avait un studio qui était le studio sur Amherst. Et puis il est venu me voir, mais lui il était plus du côté anglophone. Alors là, il en a parlé à Gilles Talbot, qui est devenu mon producteur en fait, et qui a acheté le studio de Perry, ça s'est appelé Son Québec. Et là, Perry, il est allé dans le Nord, là, le studio Perry, où lui a enregistré des Américains, blablabla. D'ailleurs, il y a un beau reportage de Radio-Canada sur André Perry. C'est très intéressant. Vous avez la chance de le voir. N'hésitez pas à le regarder. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon album avec Gilles Talbot. Et puis, on s'est entouré de musiciens, des amis, tout ça. Puis ça a été vraiment, je dirais, homemade, là. C'était pas c'était un gros studio, oui, mais c'était pas des arrangements faits par un arrangeur, tu sais. C'était notre gang, puis on pratiquait, puis on a tout monté l'album ensemble, en fait.
Mm.
Mm-hmm.
Oh. Et dans ce fameux album éponyme, sorti en 1974, on retrouve des chansons comme « Il se fait tard ».
La nuit s'étire, le jour va se lever, dehors la pluie a commencé. Peut-être vais-je rester. Pieds les mondes glissés dans ton lit, que ton corps s'aimerait chauffer aussi.
Ne dis mot.
Je bois l'amour, je bois l'amour, je bois l'amour. Je bois l'amour comme une pluie tombant sur toi. Je bois l'amour au pur et douce à la fois. Mes mains tremblent, mes mains sur toi. Ta peau est douce. Je t'aime en moi.
faite en hiver, donc vous avez entendu une version live revampée tout à l'heure. Point d'interrogation. Pendant des années, je me suis demandé est-ce que ça s'appelle point d'interrogation parce que Mambo 007, c'est pas comment il s'appelle, ou est-ce qu'il s'appelle réellement point d'interrogation? Et Priscilla m'a confirmé qu'il s'appelle réellement point d'interrogation, ce que je trouve génial.
Qu'est-ce qu'il fait là, Lulu? T'es testons-nous là? Hein? Testons? Ah!
Dis-moi. Et le classique Mon beau pays.
J'ai jamais joué à la poupée. J'ai préféré courir dans les bois, écouter les oiseaux chanter et respirer le mimosa. Au champ, le blé était si long. Caché et s'en faire une belle maison et regarder les gens passer et s'en faire une belle maison et regarder les gens passer.
C'était ton seul album studio solo, finalement?
Oui, j'allais dire malheureusement. En fait, j'ai pas fait d'autres albums, c'est assez flyé. Mais c'est la vie, c'est mon karma, c'est moi. Et voilà, donc, mais je m'en fais encore parler de cet album-là. D'ailleurs, mm-hmm. aujourd'hui, tu vois, j'aboutis ici. J'en suis très heureuse, c'est vraiment agréable. Par la suite, ben, tu sais, j'ai continué à écrire et tout. J'ai fait des shows. Mais mon producteur, Gilles Talbot, à un moment donné, il est décédé dans un accident d'avion. Il pilotait lui-même son avion, puis à un moment donné, bon, il y a eu un accident. Et bon, j'ai continué à faire des shows, puis là, avec des bookers, comme on appelle, là, tu sais, de book à gauche, à droite, telle ville. Fait que j'ai fait ça. Et puis, j'avais un côté assez indépendant. Mm. Et avec mon album, j'ai fait ce que j'ai voulu avec mes musiciens et tout. Puis j'étais très fière de mon album. Puis j'ai été bien entourée aussi, tu sais, avec le gars qui mixait. En plus, là, je fais un grand aparté, mais il y avait aussi un gars qui est venu mixer, qui avait déjà mixé pour Elton John. Ça fait que c'était vraiment le fun, tu sais, on avait vraiment des pros là, autour, là. C'était vraiment agréable. Ensuite de ça, là, c'est ça, j'ai fait des shows à gauche, à droite, et là, à un moment donné, à 27 ans, j'étais tannée un petit peu. J'ai dit, j'avais le goût de partir. Mm. Alors, je suis allée aux États-Unis. Je suis allée étudier à Boston, à Berkeley, la musique pendant un an, puis après ça, je suis allée à Los Angeles un an. Et puis, parce que j'écrivais, mais je n'étais pas capable d'écrire comme mes partitions. Alors là, j'ai commencé après ça à pouvoir écrire mes partitions, pouvoir écrire ce que je voulais, ce que j'entendais dans ma tête. Mm. Et aussi, là, je reviens à la partie du début, c'est que là, j'avais eu des offres aussi pour chanter des chansons qui n'étaient pas les miennes. Parce que j'étais la jeune fille, là, tu sais, puis ils voulaient me faire chanter des affaires que c'est sûr que c'était des hits ou des traductions, si tu veux. Mais moi, ça m'intéressait pas. Je voulais faire vraiment ma musique. Mmh. Alors, j'ai une tête assez, assez dure et je crois en moi, en fait, dans le sens que je sais ce que je fais puis ce que j'aime, puis ce que je veux offrir, puis je vois bien que le résultat, les gens aiment ça, tu sais. Alors moi, c'est toucher les gens, puis recevoir en retour. Mais je voulais pas juste dire, je vais faire cette chanson-là parce qu'elle va être populaire, ou puis là, ils vont m'habiller comme ils veulent. Puis c'était un peu cette époque-là, là, tu sais, dans le temps. Là. Donc, j'ai refusé quelques offres comme ça, parce que ça me tentait pas du tout.
Puis après ça, finalement, est-ce que tu as continué à faire de la musique, tu sais, puis à...
Ah, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait de la musique. J'ai développé d'autres facettes de la musique. J'ai appris à utiliser les ordinateurs, les synthétiseurs. J'ai fait de la musique, une couple de musique pour de la danse contemporaine, ça, j'ai beaucoup aimé ça. De la musique à l'image, un peu. J'ai fait de la musique pour Louise Portal, qui est ma sœur, une biographie visuelle. Donc, j'en ai fait la musique, puis...
Le documentaire sur Robert Gravel
aussi? Sur Robert Gravel aussi. Alors ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. Ensuite, un radio show sur un texte de Louise. Ensuite, j'ai fait des collaborations aussi sur disques. Mm-hmm. J'ai fait des collaborations avec Sylvie Tremblay, avec Eva, en show. Puis là, j'ai joué avec d'autres gens, c'est sûr, là, tu sais. Alors, ayant étudié la musique plus, là, pour, mettons, la guitare et tout... À ce moment-là, ben, je pouvais lire les partitions puis pouvoir jouer avec d'autres gens. Donc, quand je suis revenue des États-Unis, François Cousineau était en train de monter un band pour Claude Dubois. Alors, il faisait le forum. Donc, là, à ce moment-là, j'étais choriste. Mm. Avec Uzeb, qui jouait, qui était dans le band et tout ça. Ensuite de ça, quand Uzeb est parti, là, il y a eu d'autres musiciens. Et puis là, je suis rentrée deuxième guitariste, si tu veux. Mm. Alors, guitare acoustique, électrique, puis je faisais des voix. Donc, j'ai travaillé avec Claude, je sais pas moi, 2-3 ans, en tournée partout. Puis c'était vraiment, vraiment agréable. Puis j'ai adoré ça avec les gars, là, voyager, puis faire les shows. C'était vraiment le fun. Oui. Ça, c'est vraiment... Parce que j'aime beaucoup jouer avec les autres. Mm-hmm. Parce que quand tu joues tout seul, ou enfin, c'est ton show, il y a plus de pression, tu sais.
Ouais.
Mais quand tu t'accompagnes, je sais pas, il y a le...
Tu veux dire de la pression de performance?
De performance, c'est parce que t'as tout sur le dos, tu sais. Mm. Faut que tu te bookes, faut que tu... faut qu'il y ait du monde dans la salle, faut que... Ouais. Tu sais, c'est gros, là. Ouais. Puis moi, j'ai fait ça beaucoup seule, avec des bookers à un moment donné et tout, mais tu sais, j'ai pas eu d'agent en tant que tel par après. Mm. Alors, j'ai fait, c'est ça, mon petit chemin comme ça. J'ai joué avec d'autres et puis... ça, moi, c'est pas parce que je vais être en avant. C'est... J'aime faire de la musique. J'aime écrire. J'aime être en studio. J'aime jouer avec du monde. Alors, il y a vraiment le côté humain que j'adore. Mm. Je sais pas, je suis rendue là. Je suis rendue à Rimouski. Je pense bien que je suis dans une tempête de neige avec Claude Dubois. Ça nous est arrivé.
Vous étiez coincé dans une tempête?
Oui, oui, à un moment donné, c'était l'hiver, puis dans l'autobus, là, je te dis que c'était pas joli, mais on s'est rendu quand même à Mont-Joli. Ah oui, c'est ça. Puis j'ai chanté aussi avec Claude sur un de ses albums. C'est ça, je voulais en venir à ça, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais... C'est moi qui est là-dessus, c'est moi qui fais ça, puis une couple de tunes de cet album-là. Tu pars en voyage.
Fait que finalement, t'es resté dans le paysage musical québécois, mais un peu plus...
Un peu plus en retrait, si tu veux. Oui, puis... j'ai composé aussi pour d'autres, comme j'ai composé des musiques pour Louise. Puis j'ai fait des chœurs sur ses albums. Ensuite, j'ai fait de la musique pour enfants aussi.
Mm-hmm. C'est un thème aussi qui revient beaucoup dans ton travail.
Oui, l'enfance. Alors, j'ai écrit une couple de chansons pour Louise. Elle avait des textes, j'ai fait la musique. Il y avait une chanson qu'on avait faite, Camille et Mélanie, pour une maison pour les enfants en phase terminale. Alors, j'ai fait cette musique-là avec elle. Et puis, on a fait aussi une Ulysse et Pénélope. Alors, c'est une pièce de théâtre où j'ai fait la musique de la pièce et la chanson thème. Donc, ça a joué. Fait que ça, j'ai bien aimé ça, puis j'aime beaucoup les enfants.
Mmh. Ouais. Puis après ça, il y a aussi eu ton travail de professeur de musique et
ouais.
de chant.
Oui. J'ai enseigné la guitare. J'ai enseigné le chant. J'ai enseigné la guitare, le solfège et tout ça, là, dans une école de théâtre. À Montréal. Et puis, j'enseignais la guitare, je partais les étudiants. Mais c'était pas des jeunes, là, c'était des adultes, enfin, des jeunes adultes. Là. Donc, la guitare. Puis aussi, j'ai donné des cours de chant en privé. Alors, ça, l'enseignement, j'ai beaucoup aimé aussi. Parce que c'est pas juste d'enseigner les notes. Enseigner ci et ça, c'est vraiment le contact avec la personne parce que il n'y a pas une façon d'enseigner. Oui, tu as ton matériel, mais la façon dont tu l'amènes, que tu te rends à la personne qui est devant toi, il faut que tu trouves le chemin pour pouvoir qu'elle comprenne cette personne-là, qu'est-ce que tu veux dire, comment qu'elle peut ressentir la musique, la compréhension, et aussi avec le background, bon, en tant qu'artiste, on peut donner beaucoup aussi, là, c'est pas juste de la technique. Mm-hmm. Alors, ça, j'ai bien aimé ça aussi, puis, je continue aussi, je continue à enseigner. Mm-hmm. Présentement, j'enseigne, je donne des ateliers de musique pour... des gens en santé mentale. Alors ça, j'ai mon groupe, puis je les adore. Donc, on fait... on chante des chansons. On écrit des chansons. Ils écrivent des textes. Moi, je fais la musique. D'ailleurs, on doit aller en studio le printemps prochain pour que les chansons prennent forme, puis que je vais faire des arrangements et tout ça, puis que ça sonne bien, puis ils vont venir chanter. Alors ça, c'est une belle expérience qu'on va tous vivre ensemble. Donc, c'est le projet du printemps prochain. Et puis, dans les ateliers, bon, on fait aussi des percussions. Je leur montre les percussions. Je leur enseigne un petit peu les beats, comme ça, tu sais, de faire différents beats en s'accompagnant. Donc, c'est assez... Puis ça leur fait du bien. Puis moi aussi, ça me fait du bien.
Puis aussi, il me semble que tu donnais aussi des ateliers de chant au festival Vue sur la Relève, ou est-ce que tu faisais la direction artistique?
Je faisais la direction artistique, oui. Oui, c'est ça. J'ai travaillé à Vue sur la Relève avec Marie-André Dollon sur plusieurs spectacles, plusieurs années, pardon. Alors, j'étais sur le comité d'évaluation pour choisir les artistes, ce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a l'occasion d'entendre plein de chanteurs, chanteuses. C'est un festival, pour ceux qui le connaissent pas, là, mais c'est un festival en chanson-musique, danse contemporaine et théâtre, mais tout en création. Donc, pour des jeunes en bas de, disons, 30 ans, là, trentaine d'années, en bas de 30 ans, mais c'est tout en création, donc il faut que tu aies un spectacle prêt à diffuser. Alors, c'était vraiment des gens de qualité au bout de l'entonnoir qui sortaient de ça. Et ensuite, je montais le show d'ouverture, donc avec ces artistes-là, puis mise en scène et tout. Ça fait que ça, c'était vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié faire ça, parce que j'aime beaucoup le visuel aussi, le stage, puis accompagner les autres artistes, puis voir comment ça fonctionne, puis avoir des idées avec eux autres et tout. Ça fait que ça, j'ai adoré ça.
D'entendre Peur, enregistré live en studio aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de chance d'écouter Priscilla de cette façon-là. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette chanson-là puis du processus de création?
Oui, Peur. Alors, écoute, Peur fait partie d'un processus où j'avais fait les Morning Pages de Julia Cameron, c'est ça?
Oui.
Ouais. Et puis, j'avais bien aimé question d'écrire le matin et tout ça. Alors, à un moment donné, peut-être, ça faisait partie d'un des devoirs, parce que des fois, on a comme des petits devoirs. Là, dans...
ouais, le livre s'appelle « The Artist's Way ». ».«
The Artist's Way », oui. Ouais. Alors, donc, à un moment donné, j'ai dit, ben là, je vais m'asseoir le matin, puis maintenant, je vais essayer de juste écrire des textes, puis voir où ça m'amène. Parce que normalement, je me considère comme bien musicienne, là. Alors je prends ma guitare, puis là, ben gling, gling, puis là, il y a un mot, puis là, d'un coup, hop, il y a quelque chose qui prend forme. Alors là, je voulais changer d'angle. Donc, je me suis assise, et puis là, j'ai dit, j'ai écrit le matin, puis on va voir où ça m'amène. Donc, Peur, justement, ça a été une des chansons qui est sortie. où, bon, il y a toutes les, comme vous avez entendu, l'énumération des peurs que je ne possède pas toutes, j'espère, mais qui sont venues sur le papier ce matin-là. Et voilà, donc j'en ai fait une chanson. C'est assez simple musicalement et tout ça, mais c'est des peurs qu'on peut avoir qui sont aussi, comme je parle de l'inconscient, je parle des choses qui se mixent ensemble, tu sais, mm-hmm. des peurs de ci, des peurs de ça, peur d'avoir peur. Alors voilà, donc ça a été une chanson que j'ai écrite à partir de ça. Puis on a eu d'autres... dont Petit Jésus qu'on va peut-être écouter tantôt. Et j'aimais ça, faire ça. Ça a été vraiment intéressant parce que là, j'étais cadrée. C'est sûr que, bon, on réajuste un peu les textes et tout, mais on part avec une histoire. Et puis là, en fait, on habille le texte. Mmh. Alors ça, j'ai adoré ça, faire ça.
Puis c'est très différent de ton processus habituel. Exact. Qui avait commencé avec la mélodie.
C'est ça, oui. Alors là, c'était vraiment d'entrer dans soi, en fait, puis voir qu'est-ce qui sort de nous, tu sais, sans nécessairement avoir une musique en tête. Puis c'est comme les morning pages, c'est comme tu te mets à écrire, tu sais pas ce que tu vas sortir, parce que tu viens de sortir du sommeil, c'est le matin. Alors tu te mets à écrire, puis à un moment donné, hop, il y a quelque chose, parce qu'on est encore un peu dans l'inconscient, puis dans l'alpha, je sais pas trop quoi, là, comment on appelle ça, mais pas Alpha Romeo, mais... c'est des choses qui arrivent, puis il faut laisser sortir ça, puis les écrire. Mmh. Après ça, tu ajustes, après ça, tu peaufines, autrement dit. Mais c'est une belle façon, moi, j'ai trouvé d'écrire, en fait, spontanément un petit peu, là, qu'est-ce qui sort de ça. Et il y a eu beaucoup de choses qui parlaient aussi de peut-être de l'enfant en soi ou de l'enfance. Mmh. Mais... J'ai une réflexion, puis quand je lis mes journaux, là, mon journal, là, j'ai plusieurs journaux, c'est toujours des questionnements que je me fais, tu sais, sur la vie, sur qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais, etc.
Ces chansons-là qui sortent des Morning Pages, c'est un peu... elles émergent un peu de ton propre subconscient, mais aussi de comme un peu l'inconscient collectif.
Oui, c'est sûr, parce que, tu sais, on n'est pas tout seul avec notre inconscient.
Puis avec les questionnements existentiels. Puis avec...
Exact. Je pense que il y a bien des ondes qui passent plus qu'on pense.
Oui, puis c'est ce qui fait aussi que, justement, une toune comme peur peut être très relatable. Beaucoup de gens peuvent s'identifier, puis, oui. Puis se reconnaître dans cette liste d'épiceries de peurs-là, tu sais, qu'on affronte tous, tu sais. Mm-hmm. Puis je me dis justement, ça pourrait être un bon moment pour écouter Petit Jésus, qui est ton dernier bébé tout chaud sorti du four.
Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est cette semaine là, je viens juste de terminer. Ben voilà, la chanson était faite, mais je voulais absolument l'enregistrer pour la porter ici. C'est ça, c'est dans la peau d'un enfant qui se pose des questions puis qui parle au petit Jésus. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une tante qui nous parlait du petit Jésus quand on était jeune. Et puis, on faisait notre prière et tout ça. Ceci dit, je fais toujours ma prière, peut-être pas avec le petit Jésus, mais on est tous un petit Jésus soi-même dans notre enfant intérieur, je pense. Et l'enfant se parle parce qu'il a besoin de parler avant de se coucher. Puis il se pose des questions, puis voilà, il parle au petit Jésus.
Le petit Jésus. Thank you.
Oh, merci tellement d'avoir pris le temps d'enregistrer ça puis de partager ça avec nous. C'est vraiment touchant et vulnérable de comme nous offrir aussi ta musique plus récente. T'sais. Moi, avant que tu me montres tout ça, j'avais vraiment juste entendu ce qui était sur YouTube, grâce à Mambo 007. Et non, c'est vraiment touchant. Puis ça me fait vraiment penser à une conversation qu'on a eue récemment où est-ce que je te disais que ton surnom dans mon groupe d'amis, c'était la Joni Mitchell du Saguenay-Lac-Saint-Jean. puis je trouve qu'on, pour plein de raisons, tu sais, pour tes vocalises très impressionnantes, mais aussi pour justement ce genre de shift, là, en mineur, là, tu sais, on l'entend dans cette tune-là, il y a vraiment comme quelque chose d'intéressant dans ta façon de composer et de jouer la guitare, tu sais. Puis, ouais, merci.
Ben, merci à toi parce que ça me comme poussé à dire bon ben là je vais l'enregistrer parce que ça faisait longtemps que je voulais l'enregistrer. Ça, en venant à l'émission, ça m'a permis de pousser un peu puis dire hey, il faut que je la fasse. Et ensuite j'ai un ami qui est décédé il y a un an, Michel Robidoux. Un guitariste avec qui j'ai travaillé avec les années guitare et Pierre Letourneau et tout. Pardon. Et puis, donc, notre beau Michel est parti et je suis allée le voir quelques jours avant qu'il aille au ciel. Et puis, c'est la dernière chanson que j'y ai chantée, c'est Petit Jésus. Puis, il avait les yeux fermés. Et puis là, quand j'ai vu, il y a eu la célébration par après, puis j'ai vu ses filles, puis j'ai dit, je leur ai raconté que j'avais chanté à Robidoux cette chanson-là, fait que j'ai dit, je vais vous l'envoyer. Mais là, ça faisait un an, fait que là, je commençais à... Faut que je la fasse, fait que je trouve que le timing est bon, ça fait que là... Je viens juste de terminer, donc là, peut-être vous écoutez l'émission en janvier... Mais ils vont la recevoir pour Noël.
Ouais. Joyeux Noël à la famille Robidoux.
Oui, oui. Puis Robidoux, pour ceux qui ne savent pas, ben c'est lui qui a composé la musique du Petit Roi avec Ferland. Fait qu'il a travaillé avec Charles Bois. C'est un super musicien, un guitariste. Puis c'était un être exceptionnel que j'adorais. Oui. Alors, petit Jésus pour toi, Robidoux, puis tes filles.
Merci pour cette backstory, c'est vraiment touchant. On arrive déjà à la fin de l'émission, puis je pense que ce serait le fun d'entendre une dernière chanson qui est bien spéciale.
Oui, Tout feu, tout flamme. En fait, Tout feu, tout flamme vient d'une composition où là, j'ai écrit que la musique sur un texte de Gina Beausson. C'est une comédie musicale, mais pas comédie, c'est plutôt un théâtre musical. Je l'appelle un autre nom, mais j'ose pas le dire. C'est quelque chose de qui est plus pop. Alors, voilà. Donc ça a été spécial parce que je suis partie toujours du texte, puis j'ai fait la musique comme on discutait tout à l'heure. Puis ça t'amène avec une composition, mais vraiment différente parce que les textes c'est pas couplet-refrain nécessairement, donc on ça amène à ouvrir toutes sortes de choses musicalement. Puis ça a été un gros projet que j'ai adoré faire, où justement je me connectais avec, je dirais, l'univers pour qu'il m'amène, qu'il m'apporte, qu'il fasse le chemin en haut puis en bas pour vraiment écrire quelque chose qui était vrai, qui était ressenti par rapport à tout le texte et... l'histoire que je peux pas raconter ici, mais que c'est pas encore sorti éventuellement, j'adorerais, parce que c'était dans mon plus gros travail, je dirais, musical que j'ai fait, je pense, à date. Donc, si ça pouvait voir le jour...
Si quelqu'un nous écoute et est intéressé à produire un tel projet, n'hésitez pas à contacter Audio Smart.
Alors là, ce que vous allez entendre, c'est ça, c'est moi qui chante tout, parce que, bon... C'est des chansons qui ont été écrites chez moi, puis que j'ai enregistrées, puis composées, puis écrites et chantées. Alors, voilà, donc, il y a plusieurs personnages, il y a des chœurs, vous allez entendre, mais c'est ça, c'est parce que c'est supposé être sur scène avec plusieurs personnes. Alors, tout feu, tout flamme.
Vous écoutiez Audio Smut sur les ondes de CKUT 90.3 FM. On doit malheureusement se quitter. Priscilla, c'était tellement un plaisir de te parler comme d'habitude. Merci mille fois d'avoir partagé ta musique avec nous. Beaucoup de chansons inédites, en fait, que personne n'a entendues. C'est vraiment formidable pour moi de pouvoir vivre ça avec toi et le partager avec nos auditeurs. Puis j'espère que ça va voyager, puis que tu vas avoir de nombreux fans de plus à ajouter à la longue liste de gens qui trippent sur ton travail.
Ça me fait plaisir, M. Liam. Merci beaucoup de ton invitation, puis ben salut à tout le monde.
Bye, bon mois de janvier. Bonne chance.
Je peux faire le vent aussi.
Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
Good evening and welcome to Amanla, 1 hour of African Current Affairs brought to you here at CKUT 90.3 FM in Montreal, CKUT.ca around the world. We're still in the midst of the holidays and Doug and I are taking it a little bit easy over the next, over last week and now this week as well. So Doug, I know that you have plucked something produced by somebody else for us to listen to on Amanla tonight. Tell us more.
Well, yes, and it's been fun to look things up and to get exposed to it. But listeners may remember that we covered A Continent for the Taking, what the heck was the name of the rest of that title? The Tragedy and Hope of Africa by Howard W. French. That was in the early 2000s, I believe, yeah. Right after the Rwandan debacle. And Howard W. French has written a new book called Born in Blackness, Africa, Africans, and the Making of the Modern World, 1471 to the Second World War. And it's an impressive book that we